Cassette numéro 2, suite de Tonton Mistre. Il était pétri d'un perpétuel humour qui pétillait dans son regard, regard facilement chargé d'une discrète hilarité. Hilarité qui survolait le ridicule de certains gens ou de certaines situations. En le prédisposant à une perception du comique plus aiguë chez lui que chez le commun de ses compagnons du terroir, le sort s'était fait en quelque sorte le complice de l'état civil, car de son second prénom, Louis se nommait Hilarion, prénom à consonance grecque, comme Hilarion, mais largement honoré dans la Gaule chrétienne qui connut plus d'un évêque ou plus d'un saint homme, d'un saint Hilaire. Avant de refermer ma boîte à souvenirs sur cette famille des mistres du Pharaon, du quartier La Fontaine, je dirais de lui qu'il était bon, qu'il aimait ses terres, ses végétaux, ses animaux. Je ne l'ai jamais vu brutaliser un cheval ou un chien, tout au contraire. Il parlait aux bêtes domestiques avec autorité et douceur, car il était maître de lui-même, et de cette maîtrise émanait une force calme, le plus souvent silencieuse. Je le revois en train d'inspecter ses melons d'eau, de les tâter dans les sillons après l'arrosage, autour du gros cabanon qu'il possédait à quelques centaines de mètres de la ferme des Consacs, mais sur l'autre rive du Bual. Ou bien, assis dans l'herbe à quelques pas de ce cabanon, occupé à écraser le fer de sa faux en le martelant, pour redonner du fil et du coupant à son outil, entre deux passes de fauchage dans les champs, ou bien occupé à visiter les tumuli de terre fraîchement amoncelés par les taupes, taupes qu'il relevait, prises dans les pièges en forme d'Y métallique, dont les pinces se refermaient sur le nez des trop curieuses. Je le vois s'acheminer ensuite lentement vers la grosse porte de bois de l'antique construction, sortir ses taupes l'une après l'autre, les accrocher au clou de la porte, le clou ad hoc, préposé à cet emploi, inciser la peau des bestioles à l'aide de la lame affûtée de son opinel, tirer habilement sur la peau pour en dépouiller l'animal, recommencer méthodiquement avec les autres prises, et puis tendre soigneusement les peaux pour les faire sécher à l'ombre afin qu'elles demeurent souples. Je le revois enfin bien plus loin de Brignoles vers la route du Luc, dans sa terre de Tombarelle. Nous allions à plusieurs, riant, au rythme lent du tombereau tiré par son impassible et lourd cheval. Tombarelle, dont les grands oliviers bleuissaient, tout chargés de fruits verts et mauves, ou presque noirs, fruits offerts à nos mains tendues vers la cueillette des olives. Une journée de cueillette, olives qu'on détachait et qu'on jetait sur des draps posés au sol, à des fins de récupération terminale. Olives qui aboutiraient ensuite au moulin à huile, ou pour les plus belles d'entre elles, dans la saumure, suivant une ancienne recette qui laissait à ses fruits une petite amertume recherchée des connaisseurs. Que le ciel te garde. dans les célestes jardins des justes de l'autre côté du fleuve, et que tu y trouves toutes les fleurs et tous les fruits que Dieu réserve à ceux qu'il aime.
Belle, 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 ni cet enfant, je ne sais quoi, grande folle qui affole et qui mettrait que j'en ai moi. Ah, tarantelle d'amour, ah, tarantelle.
Henri Fauchier. Henri Fauchier et son épouse Julie Canolle étaient père et mère d'Augustin Fauchier et de Jeannette Fauchier. Augustin, époux de Marie, fille de Tonton Mistre. Henri Fauchier, cousinette avec mon père Joseph et avec Sidonie, qui étaient germains directs l'un à l'autre par Marcelin, mon grand-père, et sa sœur Marie-Victoire Fauchier, ma grand-tante et mère de Sidonie. Marcelin et Marie-Victoire, tous deux enfants d'un Joseph Roch, issu lui-même d'un André, fils d'un Joseph, le plus anciennement connu. Le cousinage d'Henri remontait à une branche collatérale par des germains plus vieux de trois générations. Les frères Jean-Joseph Fauchier, né en 1769, et André Fauchier, né en 1771. Eux-mêmes nés d'un père Joseph dont je viens de parler, trisaïeul commun d'Henri, de mon père et de Sidonie, donc ce trisaïeul né en 1731, marié en 1762 et décédé le 20 janvier 1789 à Brignolles-Var. Pour mémoire, ce trisaïeul est le doyen dernier connu en amont de l'arbre généalogique des Fauchiers de Brignolles. Nous sommes en 1991, il naquit donc il y a quelque 260 ans. Soit deux siècles avant ma propre naissance, son épouse était une Périmont. Voilà pour le cousinage de Henri Fauchier avec Joseph, mon père, et Sidonie, cousine germaine de mon père. Cet aparté généalogique, un peu longagne, a le mérite d'être précis et de nous renvoyer deux siècles et demi en arrière. J'ai connu Henri Fauchier vers la fin de 1939. Il avait déjà passé la soixantaine. Cheveux poivre, poivre et sel. En voie de raréfaction sur le haut du crâne. Visage à peau mate et buriné par les intempéries et le soleil des champs. Front large et nez en pique la lune. Avec des yeux bruns en amande, et une mâchoire large, légèrement décrochée, qui lui donnait une certaine force et l'air décidé, des caractères volontaires et obstinés. Courtaud de taille, trapu de membres, il se plaisait à se tenir jambes bien écartées, comme pour améliorer son appui au sol ou sa communion à la terre qui le portait, terre qui était sa passion. Au repos, immobile, dans cette position qui faisait de sa silhouette un petit trapèze, il affectionnait de regrouper ses mains derrière son dos. Buste incliné en avant et nez pointé vers le ciel pour discuter avec ses interlocuteurs. interlocuteur presque toujours plus haut que lui, à commencer par son grand échalas de fils, Augustin, qui, lui, pointait du nez vers le sol pour s'adresser à son père. Quand il se déplaçait, son corps légèrement cassé vers l'avant, comme l'ont ceux qui, très jeunes, ont passé des journées entières, la pioche ou la houe en main, à sacler ou à bêcher, courbé vers la terre, son corps marquait un déport latéral, comme s'il avait encore une lourde pioche sur l'épaule droite, ce qui lui conférait une démarche un peu brinque-ballante, mais rapide et décidée. Il avançait par les sillons, par les champs ou les ornières des chemins, avec parfois un mouchoir blanc glissé sur l'arrière de sa casquette pour lui couvrir la nuque et l'abriter des ardeurs du soleil. Les lèvres agitées par les restes d'un discours intérieur, marmonnant et souvent bougonnant ou pestant après choses ou gens qui n'allaient pas droitement, du moins suivant le sens de la droiture qui était le sien. Henri était un homme qui privilégiait les bonnes règles héritées de la saga agricole. Il y avait une bonne façon d'exécuter telle ou telle tâche. Une bonne façon et une seule. Une façon qui conditionnait de bons résultats. Il y avait une bonne époque, un juste moment pour entreprendre certains travaux ou exécuter telle ou telle intervention. C'était la bonne façon de faire, le bon mois, le bon jour, voire la bonne heure. Sorti de là, sorti de cette véritable programmation, agreste autant qu'ancestrale, on était dans l'erreur ou dans l'absurde. On contrevenait aux règles établies, ce qui le rendait vite furibond. Ses proches disaient qu'il « bisquait », entre guillemets. En provençal, bisquer, c'est être en rogne. Et il ne s'en privait pas de bisquer. Quand son regard critique et terrien découvrait une faille dans les actions des autres. Henri laissait courir sur ses biens, sur ses terres, ses maisons et ses gens, l'œil du maître, cet œil dont le proverbe dit qu'il engraisse les bœufs. Dans le village, on l'appelait Fauchier le Riche, en raison de l'étendue de ses biens au soleil. Mais lui vivait chichement, sainement et simplement, ardemment tourné vers la terre qu'il aimait, autant pour elle-même que pour la récolte qu'elle donnait. Il vivait chichement des primeurs et légumes de saison, de ses volailles, ou cochons, ou agneaux, ou de ses fermes, des œufs de ses poules, du lait de ses chèvres. Mais Henri n'était pas un rustre, loin de là. C'était un entêté, mais un entêté cultivé, intellectualisé. Il avait fait de sérieuses études dans son jeune âge et se plaisait à me réciter des poèmes entiers de Virgile, dont il débitait les vers en latin, avec la juste prononciation et le rythme musical de ceux qui maîtrisent vraiment ces textes. Il en commentait les beautés et la vérité des images, bucoliques comme il se doit. Enfin, Henri était musicien. Il solfégiait facilement et jouait d'un instrument avec patience et application. Dans la pénombre de ses cuisines basses de plafond, aux murs enduits de lait de chaux comme cette cuisine de son petit mas de l'Estagnol, où je l'ai vu vivre avec Julie son épouse en ces années-là, en ces étés-là. L'Estagnol. Le petit mas de l'Estagnol et la terre qui l'entourait se trouvaient et se trouvent encore à quelques stades de la sortie ouest de Brignoles, le long de la Nationale 7 en direction de Tourves. En roulant sur cette Nationale, on aperçoit sur la droite, à quelques 300 mètres du bas-côté de la route, la masse longue et basse de la Bastide de l'Estagnol, masse balisée dans le décor par un lot isolé de cyprès qui pointent leurs chandelles vert sombre dans le bleu franc du ciel provençal, se découpant sur l'horizon en contrepoint coloré des tons d'orange et d'ocre éteint d'une toiture en vieille tuile ronde et romaine. Façade blanchie, peu élevée, trouée à droite d'une porte pour la cuisine et à gauche et en haut de quelques fenêtres pour la salle commune du bas et les deux chambres du haut. Côté gauche, la grange ou remise qui se continue sur la face arrière du bâtiment, à l'abri d'une prolongation plus basse du plan postérieur de la toiture. Sur le devant, un dégagement plus ou moins pavé à l'ombre de deux vieux mûriers. Quelques mètres plus bas, sur la déclivité des terrains qui meurent en pente douce vers la Nationale, un grand bassin rectangulaire, correctement bâti avec margelles en bonne pierre plate, affleurant presque au niveau du terrain le plus haut, à l'endroit où une borne fontaine laisse couler son eau dans une vasque alimentant le bassin, non loin des mûriers. Cette eau est amenée par captation d'une source située à quelques 200 ou 300 mètres dans la propriété mitoyenne en amont de la faible pente. La conduite d'eau se fait par un étroit tunnel souterrain en pierre bâtie, à petite voûte, à la manière des puisatiers d'autrefois. La source donnait une eau claire et fraîche que le bassin retenait à des fins d'irrigation matinale ou vespérale, et pour les gosses que nous étions, des baignades en été. Il nous arrivait, en raison de notre petit gabarit de gamin, de nous introduire dans les premiers mètres de l'étroit tunnel d'adduction, pour y dégager quelques obstacles ralentissant le débit d'eau, surtout en saison trop sèche. Cela se faisait sous la surveillance visuelle d'Augustin, bon géant, qui se tenait prêt à nous dégager le cas échéant, et qui nous interdisait par ailleurs formellement de nous amuser à y pénétrer pour quelque autre jeu ou raison que ce soit. Quand je dis nous, c'était mes cousins, Riri Ventre et Dédé, Dédé Domas, fils de Jeannette et petit-fils d'Henri. Dédé, à peine moins âgé que mes 10 ou 11 ans. Au fil des ans, je vins à plusieurs reprises pour jouer à l'Estagnol, avec cousins-cousines d'un été à l'autre. Surtout après que Joseph m'eut offert mon premier vélo, entre mes 10 et 11 ans, vélo routier d'un bleu électrique à pneus ballon et doté d'un dérailleur, que j'ai utilisé jusqu'à mes 19 ans. À l'Estagnol, j'ai même passé une nuit, en je ne sais plus quelle occasion, pendant la guerre. La tante Julie, il m'en souvient très bien, nous avait au matin servi dans la salle du bas comme un petit déjeuner, un grand bol de lait mousseux, mais lait odoriférant de chèvre, de ses chèvres à elle, bol dans lequel elle avait ajouté une décoction d'orge grillée, le tout remplaçant le café au lait d'avant-guerre. Ce chaud breuvage que Julie taxait de très bon pour la santé, sans nul doute, rencontrait néanmoins quelques difficultés à passer, du moins pour moi et pour les premières gorgées. Mais ensuite, les tartines de confiture aidant, l'appétit matinal surmontait le corset de la nouveauté caprine. Quelques années de plus et je revenais à nouveau vendanger avec Marie-Augustin, le vignoble attenant à la Bastide. J'étais adolescent et Augustin me versait mon premier salaire pour ma participation aux travaux de ses vendanges. Julie, à cette époque déjà, avait achevé sa vie. Sa vie passée en incessant labeur, ce qui était le lot des femmes de sa génération. Femmes d'agriculteurs entièrement dévouées à tous ceux de la famille et à toutes les tâches domestiques, animalières et champêtres. Je la revois encore aller et venir, très grande, sévèrement vêtue d'un noir qui tranchait avec la pâleur laiteuse de sa peau, de grands yeux bruns et un visage long, auréolé d'une chevelure en fil d'argent. Elle était attentive à tous les détails, simple, bonne et discrète. Elle passa sans bruit. La Charité. La Bastide de la Charité, en fait, on devrait dire les Bastides, car plusieurs corps de bâtiments y sont mitoyens et répartis entre plusieurs propriétaires. La Charité formait donc déjà à l'époque une sorte de moutier plutôt que de masse. Le tout construit de pierre, apparente ici ou là, ou bien ailleurs, revêtue de crépi ou de ciment, selon les caprices des résidents. Les toitures en pans décalés et peu inclinés coiffent une ligne de demeures différentes et contiguës de leurs tuiles rondes, tuiles dont le charme vieille Provence confère une unité d'aspect au bloc d'ensemble. Ce bloc se trouve situé à quelque 1200 mètres plus à l'ouest que le hameau des Gaétans, sur le début d'une vaste et plane étendue, plantée de vignes entrecoupées de bosquets, et qui longe le pied d'une ligne de collines, collines au nord desquelles se trouvent les gros villages de Brasse et du Val. Le site par lui-même fait suite à l'Estagnol, mais plus à l'ouest. L'Estagnol qu'on pouvait quitter à pied en longeant la voie ferrée par un chemin qui permettait de se rendre en 25 minutes environ après avoir traversé les Gaétans jusqu'à cette grande campagne de la Charité. Henri Fauchier possédait l'aile gauche de ces bâtiments du côté du soleil couchant. Aujourd'hui, après quelques 50 années passées, ou peu s'en faut, c'est notre cousine Simone, petite-fille d'Henri, qui loge avec son époux, le charmant André Barrault, et en compagnie de ma tante Marie, dans ses locaux rénovés et aménagés de la Charité. Locaux confortables dont une façade regarde vers le sud, regarde dans le ciel la belle découpe en profil de scie des roches de la paroi de crête de l'Aloube. L'Aloube, colline majeure dans la plaine de Brignoles, qui devrait son nom à son aspect de ruban en dents de scie comme les outils pareillement nommés des anciens sieurs de Long. On appelait ces grandes scies qui étaient maniées par deux hommes une loupe, qui faisait un mouvement de va-et-vient, chacun tirant à son tour sur l'embout. André, lui, pencherait pour une autre version qui privilégierait une étymologie différente venue du mot la louve, en mémoire peut-être d'un animal tiré de quelques annales de la chasse. Suivant que vous serez bûcheron ou chasseur, votre version suivra vos penchants. On en est au moins tombé d'accord avec André. Le superbe massif rocheux de la Loube, tout enchâssé de belles forêts de pins, constituait, pendant la guerre 39-45, une réserve à gibier. Les sangliers y avaient déjà leur habitat, et le vieux cordonnier italien, qui logeait dans une masure mitoyenne de la maison brignolaise de ma tante Thérèse, bien qu'il ne payât pas de mine, allait régulièrement braconner dans le massif de la Loube, malgré la distance. Il y posait ses pièges de nuit aux abords des rares points d'eau disséminés entre roches et bois et les relevait après l'aurore, car peu avant l'aurore, les animaux sauvages se rendaient autour des flaques, des mares ou des fontaines pour y boire. Et ces pièges fonctionnaient. Avec les restrictions alimentaires de la guerre, nous étions très heureux de lui acheter lièvre ou lapin, et parfois même de gros écureuils. Quel dommage pour ces beaux et graciles petits rouquins de terminer à la marmite, mais la guerre ne laissait pas le choix. Revenons à la charité. Nous y faisions des incursions du vivant de Julie. Julie qui devait, en certaines saisons, y tenir quelques bêtes qu'elle allait y nourrir. Pour moi, Simone m'avait montré un petit canal à ciel ouvert, canal d'adduction d'eau, d'irrigation, juste derrière les bâtiments au nord-ouest. Dans l'eau fraîche de ce canal foisonnaient plantes aquatiques et cressons. Et mon plaisir, avec ou sans des dédommages d'ailleurs, consistait à me pencher sur l'eau à genoux, sur la terre herbue de la berge, pour capturer des têtards ou des petites grenouilles, des rainettes vertes, et les ramener ensuite dans un verre d'eau jusqu'à Brignoles, aux grandes exclamations de maman. Cela me remémore à quelque temps plus loin nos séances de pêche aux écrevisses dans les rues des alentours, car les eaux de l'époque n'étaient pas polluées et la faune des ruisseaux peu visités était assez abondante. C'est Dédé Lombard, le fils du boucher, qui m'y emmenait. On plaçait des abats, têtes et charognes, un petit peu avancées de moutons, dans des fagots de branchages le soir, et on revenait les remonter le lendemain. On secouait les fagots sur les berges pour en déloger les bestioles qu'on rangeait précieusement dans une nasse d'osier. C'était un peu de la braconne, mais enfin, ça ne se connaissait pas au goût, une fois dans la marmite. J'ai par ailleurs remarqué que chez les Gaulois, les principes cessent souvent d'agir quand on remplit le pot. Le pot-au-feu. Ventre affamé, vous connaissez la chute. Mes derniers souvenirs de la charité d'autrefois sont encore ceux de Vendange. Devenu adolescent et en tout dernier lieu, Augustin me confia deux ou trois fois la conduite de la longue charrette chargée de cornues pleines de grappes sur le trajet de la charité jusqu'à la coopérative. Ça faisait quelques kilomètres. Ces jours-là, j'éprouvais un sentiment de promotion personnelle, de supériorité, d'accession à un début de maîtrise. Sentiment qui m'envahit à nouveau peu d'années après, lorsque je pus décoller et piloter un avion tout seul. et sentiment qui se renouvela une fois encore lorsqu'on me confia la conduite de mon premier véhicule à moteur, un vieux camion Ford dont j'obtins le permis de conduire, car je n'eus le volant d'une voiture, paradoxalement, qu'après le manche d'un avion, à l'inverse de beaucoup. Ces vendanges des automnes 45, 46, 47 me donnèrent d'incomparables impressions. La nature me révélait ses beautés, la lumière dans les rangs de vignes, les grappes qui s'accumulent, la bonne humeur des vendangeurs, les chapeaux ou les foulards protégeant les têtes féminines, les accès solaires, les rires et les moqueries des uns et des autres qui ne cessaient de besogner pour autant, courbés vers les ceps inlassablement. Aïe les reins, ça faisait du bien le soir de s'interrompre. On rentrait vanné mais heureux. Aujourd'hui, j'ai dit adieu à bien des êtres, à bien des maisons. Mais pas encore à la charité, où je m'arrête une fois l'an. Boire un café chez Marie, Simone et André. Je contemple une minute ou deux les détails du site, qui ne sont pas aussi vides qu'on pense, des acteurs d'autrefois. Je me plais à le redire ici, hier n'est pas loin, quand on aime, et ceux qu'on croit partis reviennent plus facilement que nous, discrètement, sur les terres et les lieux qui les ont aimés, terres et lieux qui les aiment aussi en juste retour. Cher Lamartine, ta question était une réponse. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Il n'y a pas d'objets inanimés dans le règne du cœur. La miséricorde maintient la vie là où l'œil de pierre de l'incroyant ne la voit plus. C'est mon perçu du surréalisme du royaume des vivants. Un royaume où rien n'est interdit, et singulièrement le retour dans le temps et les lieux qu'il habite. Plus d'un connaît l'embranchement du merveilleux chemin qui débouche de l'autre côté du fleuve. Je pense à Richard Bach, cet Américain et aviateur, grand rêveur devant l'Éternel aussi. La porte qu'on doit pousser est dans le cœur de chacun, et l'effort est minime. Il suffit des premiers pas pour retrouver dans la tendresse des temps qu'on croyait perdus. L'éternité de l'amour préserve les plus infimes parcelles de la vie et restitue la totalité des vivants aux adeptes de l'amour. C'est là ce que je perçois et qui met en évidence intime, bien en deçà de l'effet schizophrène, car cette réalité de l'amour remplace et devance les souhaits, souhaits devenus inutiles, car transcendés. Ceux qui possèdent la liberté d'aimer n'ont plus de souhaits à former, tout leur étant accordé. Métaphysique du merveilleux, direz-vous, ou merveilleux de la dialectique, allez-y voir. En patois auvergnat, on dit « Vasiveir », comme Notre-Dame de Vasiveir. Avoir, début juillet, à côté de Superbès, dans les hectares de prairies, parmi des milliers de fleurs. Intermède. En opérant un retour d'écoute sur la bande magnétique qui enregistre mes précédents bavardages, force m'est de constater que la vision sans correction qu'on garde du passé est tout à fait orientée. Dans mon cas, la tendance à valoriser et idéaliser mes perceptions d'autrefois ne saurait m'échapper, pas plus qu'à mes auditeurs, j'imagine. Après tout, la vision améliorée qu'on emmène avec soi des événements et des personnages d'antan ne vaut-elle pas mieux qu'un pessimisme grinçant? Jeter un regard optimiste par-dessus son épaule en se retournant pour contempler le chemin parcouru me plaît beaucoup mieux. Ceux qu'on a aimés ont bien droit à un début de légende, à l'instar d'autres héros régionaux, nationaux ou internationaux, dont la plupart n'ont pas le mérite d'appartenir à notre histoire personnelle. Alors, ma chronique, qui porte plus sur mes états d'âme d'enfance brignolaise que sur la propre histoire de la vie brignolaise. En raison du regard géocentrique du narrateur, votre serviteur, entre guillemets, ma chronique restitue néanmoins, à la manière de l'impressionnisme, une recomposition singulière, mais aux couleurs de la vie, et qui porte témoignage d'une véritable tranche de vie, un peu comme cet échantillon triangulaire qu'on découpe au canif dans le corps d'un melon pour en connaître les subtilités cachées. Ce n'est pas le melon, mais ça le qualifie quand même. Et puis enfin, me voici rendu à introduire un entracte. J'en saisis l'occasion pour apporter un correctif. Dans la troisième tête de chapitre, en début de récit, sous l'intitulé « Cousin Germain et petit cousin », je me suis plaint d'avoir égaré le superbe arbre généalogique circulaire, patiemment élaboré par Jean Fauchier, fils dernier-né d'Augustin et de Marie. Eh bien, la chance m'a souri entre-temps, puisque Ninette, qui a bien plus d'ordre que moi, en a retrouvé un exemplaire qui m'avait été donné. Je l'ai donc consulté notamment pour resituer Henri Fauchier dans la lignée des Fauchiers, la lignée généalogique. Ceci dit, ayant fait un large tour de notre parentèle brignolaise, je dirige mes pas vers le quatuor Joseph Mado Robert Ninette, à replacer dans un double contexte celui des Adrets, le quartier des Adrets, bien nommé, le quartier au soleil, et de l'école communale de Brignoles. Voilà. Les Adrets. La plaine de Brignoles s'étire en longueur depuis Tourves jusqu'à Carcès et vers Flassan, entre deux alignements presque parallèles de collines grossièrement orientées d'ouest en est. De ce fait, les versants de l'alignement sud de ces collines regardent au nord, sont plus à l'ombre et pour cela sont dits être à l'ubac, du vieux mot latin opacus. À l'opposé, les versants de la ligne nord, eux, regardent au sud et sont dits à l'adrée. Le vieux Phébus, en parcourant son orbe, les effleure de sa jeune lumière dès la matinée, leur fait face et les inonde de ses rayons en plein midi, et décroît en les enluminant de ses feux d'ouest jusqu'en fin de soirée, soirée courte ou longue selon la saison d'hiver ou d'été. Les terres et petites propriétés attenantes aux versants exposés au soleil de l'Adré forment à Brignoles les quartiers des Adrets. Vivre du côté des Adrets tentait Joseph. En hiver, Brignoles ne jouit pas d'un climat aussi doux qu'en bord de mer. La plaine est peu élevée mais bien ventilée. Le flux du Mistral d'hiver est ressenti comme glacial. Et cantonnent les moins jeunes et les jupons au tison à longueur de journée. Le quartier des Adrets s'adosse, lui, aux collines de Brasse, à celles du Pied-de-Bœuf jusqu'au village du Val. Il tourne le dos au vent du nord et du nord-est. Cette barrière naturelle coupe un peu les vents froids. Et pour peu qu'on ait une terrasse ou une véranda bâtie en angle, le dos au vent, on s'ensoleille même en hiver, avec ou sans vent, l'effet de serre s'installant entre 10h et 16h. C'est bon de faire le lézard au soleil quand souffle la froidure, surtout à partir de la soixantaine, d'où la prédilection de mon père pour les Adrets. En 1940 environ, Joseph y fit l'acquisition d'une parcelle de 1000 mètres carrés, parcelle qui terminait en angle la propriété 5 fois plus grande d'un petit cultivateur, M. Peysselon, qui vivait en Brignoles. Cette parcelle, qu'il revendit en 1942 à Maître Picardin, avoué à Brignoles, avait l'inconvénient d'être masquée en sa moitié par les 3 hauts étages des bâtiments proximes, mais monumentaux, de l'ancien séminaire devenu depuis longtemps école de garçons, école communale et cours supérieur jusqu'au brevet. Les bâtiments projetaient leur ombre sur la moitié du terrain et, qui plus est, amputaient la vue au sud sur la ville et sur la chaîne de Candéron, d'autant que, situés sur le plat, nous n'avions déjà qu'une faible perspective. Par contre, et c'est là qu'on voit que le hasard corrige parfois les choses. À 100 mètres en amont, un peu plus haut en remontant la pente, formant le premier contrefort du versant des Adrets, se trouvait un bel hectare constitué d'un méplat cultivable d'environ 6000 mètres carrés, méplat bordé et surmonté d'une bosse calcaire et rocheuse d'environ 4000 mètres carrés, élevé de quelques 6 mètres. Couverte de genêts géants qui en serraient des roches blanches cornées, 3 ou 4 bouquets de pins verts et drus, donnant des pignons, de gros pignons au parfum de résine qui devaient faire ensuite nos délices enfantines. Cet hectare dont le tertre s'est offert en garrigue avec des pieds de genévrier, des cades sauvages, des romarins, des thyns, des farigoulettes et autres ronces. Cet hectare appartenait à un cultivateur ayant fermette à Brignoles, en haut et à droite du Course. Le Course étant une double avenue bordée de platanes vers l'école des filles sur le haut de la ville. Joseph eut au fait de s'apercevoir que ce cultivateur, plus que quinquagénaire, avait réduit ses activités et se trouvait de plus sans héritier, ce qui ne l'incitait pas à conserver d'arrache-pied son patrimoine foncier comme la plupart des propriétaires terriens. Dernier point, ce Toussaint Roux, nommons-le, cousinait d'assez loin avec les Fauchiers. En fait, une Anne Rosalie Roux était la trisaïeule d'Augustin Fauchier, alliée à des Lyotaux puis des Canoles. Et une autre, Marguerite Adèle Roux, c'était la grand-mère de Louis Mistre, que j'ai déjà présenté. Elle était donc la bisaïeule de Marie, épouse d'Augustin. C'est ce qui apparaît sur le fameux arbre généalogique. Le prétexte fit merveille. Bien que méfiant et peu enclin à dissoudre son bien, Toussaint céda, bon gré mal gré, aux demandes renouvelées de mon père, contre une somme très honorable, naturellement. Et nous devînmes propriétaires des 10 000 mètres d'un bien que Joseph dénomma la garrigue des Adrets.
Il était une fois, là-haut sur un toit, un maçon qui chantait sa romance. Ce fait n'a l'air de rien, vous allez voir combien un petit fait peut avoir d'importance. Comme il me reste à vous prouver comment, je vais commencer par le commencement. Un maçon chantait une chanson, là-haut sur le toit d'une maison. Et la voix de l'homme s'envola pour se poser par là comme un oiseau sur la voix d'un autre maçon qui reprit la chanson sur le toit voisin de la maison. Et ainsi commença l'unisson de deux maçons et d'une chanson.
Le toit d'une maison, bien sûr. Joseph avait toujours rêvé d'avoir un toit bien à lui, au pays de ses pères. Et cette garrigue emportait la promesse. Cette garrigue, dont le champ du bas donnait une maigre récolte d'avoine, Toussaint labourait ce champ avec un petit cheval arabe, soit dit en passant. Cheval qui faisait de son mieux, mais l'arrière rebondissait, se contentant d'égratigner le sol, de sillons tout juste ébauchés. Le spectacle valait d'ailleurs le coup d'œil. Un vieillard rouquin, entêté, colérant et pestant de la voix, derrière un étaleron arabe entier, léger et nerveux, qui fantasiait entre les coups de colle, devant une charrue dont le timon secouait la silhouette poussiéreuse et sautillante du laboureur. Toussaint s'était entiché au Maroc du temps de ses jeunes années, de ses chevaux de spahis. Il était bien l'un des rares petits cultivateurs du terroir à conduire ses travaux avec un si petit calibre. Mais voilà, son étalon, c'était son caprice, son privilège à lui. Il en éprouvait une fierté mal dissimulée d'ancien cavalier. Cette garrigue, donc, dont la calotte du haut laissait pointer quelque 40% de roche blanche à travers un fouillis végétal, à demi sauvage, difficile d'accès et indescriptible, cette garrigue allait, en attendant un toit, devenir l'objet de la passion permanente de papa. Passion qui nous gagna tous rapidement, à différents degrés, faisant du lieu notre point de chute et de détente quasi quotidien pendant quelques 12 ans. Et pour Joseph, pratiquement jusqu'à la fin de ses jours en 1958. De 1941 à 1943, Joseph s'employa à défricher et à éclaircir la partie sauvage. Nous mîmes tous la main à la patte, disons aux manches de pelle et de pioche. Ninette débroussaillait et Mado se mit à la brouette, ce qui était d'autant plus méritoire pour elle que la famine de ces années l'avait affaiblie et allégée de quelques 30 kilos au bas mot. De ces brouettés trop lourdement chargés, d'ailleurs, de caillasses, de terre, d'herbes et de gravats, Mado devait physiquement se ressentir durant plusieurs années. Cependant, le chantier avançait. Papa s'attaqua à un groupe de gros rochers que nous déterrâmes. Ils étaient sertis de tuf. Avant de les attaquer avec des coins d'acier qu'on enfonçait avec de lourdes masses, nous frappions le coin à tour de rôle, nos deux masses s'élevant et retombant dans une ronde bien emboîtée, interrompu parfois par un rebond du coin qu'il fallait remettre dans une fente du calcaire ou bien par un épuisement soudain de l'un de nous deux. Faut dire qu'à 63 ans, Joseph cognait à la masse avec une vigueur étonnante, une vigueur de jeune homme, une vigueur de pourfendeur. Pour moi, dans mes 13 et 14 ans, j'y gagnais du souffle et des épaules. des épaules trop larges pour ma taille, comme l'ont remarqué ceux qui connaissent ma silhouette. Les accents guillerets de ce que vous venez d'entendre sont ceux de l'hymne national italien. Indépendamment de ce que cet hymne peut avoir d'attachant, surtout pour vous, mes enfants Maya et Thomas, dont l'Italie fut la patrie de vos aïeuls piémontais, ces accents introduisent dans mon récit l'anecdote transalpine. Toujours vers cette époque de 41, 42 ou 43, l'armée italienne tenait un modeste détachement de forces occupantes dans la campagne brignolaise. Sympathiques et incroyables ces occupants qui fraternisèrent d'emblée avec les occupés. Occupés dont on doit quand même dire que nombre de familles venaient du Piémont dans le temps. Le commandement d'une compagnie de pompiers, superbe d'ailleurs, des vrais acrobates ces gars-là, et d'un régiment de sapeurs du génie, avec des camions Fiat et tout un matériel, stationnait à une vingtaine de jets de pierre dans le petit bois de la propriété qu'on appelait la Viguière. Petit bois qui enserrait une gentilhommière, celle des Gavottis, vieille famille brignolaise ayant produit notre organiste national et musicologue bien connu. Gavotti, on l'a vu souvent à la télé et on l'a entendu aux grandes orgues de Saint-Étienne-du-Mont. Mais revenons sur le terrain, l'officier le plus gradé de ce pyramidon hiérarchique était un capitaine plein de prestance, grand bel homme, impeccablement serré dans une tunique fantaisie, racé et cultivé, affable et courtois, à peine condescendant, comme seul sait encore en produire l'aristocratie italienne, la grande classe quoi. Une classe devenue introuvable en France. Joseph, officier de réserve de la guerre de 14, s'en fut aux nouvelles dès l'arrivée de cet échelon de commandement et put s'entretenir en voisin avec ce capitaine qui parlait un français sans reproche, avec quelques rares accents aigus. Ces accents aigus que les Italiens placent sur les œufs muets. Le contact déboucha en gros sur ce raccourci. Mes hommes sont des simples pour la plupart des paysans. À votre Légion d'honneur, je vois que vous étiez officier. Si mes gens vous causent des nuisances ou des soucis, dites-le-moi, je corrigerai immédiatement la situation. Et Joseph, merci, je vous en informerai éventuellement. Par ailleurs, s'il vous manque du vin, je me ferai un plaisir de vous en offrir, car c'est notre seule richesse. Mais nous, par contre, nous manquons cruellement de pain. Qu'à cela ne tienne, marché conclu. De simples soldats, Battisti, Bayardi, Giovanni Bayardi, un troisième larron. vinrent une fois la semaine troquer 5 ou 6 pagnottes. Les pagnottes étaient des boules rondes, faites avec de la farine de riz très blanche et délicieuses pour les affamés comme ceux que nous étions. Ces quelques pagnottes contre 5 ou 10 litres de rosé dont nous avions en quantité, en dame Jeanne emmaillotée d'osier. Il les prenait pleines et les ramenait vides. La noria fonctionna longtemps à la satisfaction bilatérale des parties. Cantare. Très souvent, le soir, après la soupe, la minestre. Et le rosé aidant, l'armée italienne chantait. Et elle chantait bien et gentiment. Nous vivions une sorte d'opérette où les uniformes des soldats se mêlèrent souvent aux soirées d'une certaine jeunesse brignolaise. De plus, ces dames du 13... Le 13 était l'hôtel Borgne, juché du côté de Saint-Sumian. Ces dames, donc, accueillirent de fidèles clients. Clients qui, leurs affaires faites, redescendaient notre rue des Cordeliers en passant sous nos fenêtres, en groupes illards, bons enfants, un peu éméchés et sur les coups de 23 heures pour être dans leurs bivouacs respectifs, aux 12 coups de minuit. Les côtés folkloriques de cette armée italienne ne nous gênaient guère et nous firent comprendre, au contraire, combien ces garçons en uniforme et sans malice étaient déplacés dans la guerre, nostalgiques qu'ils se montraient de leur terroir natal, de leurs épouses et de leurs enfants, dont ils contemplaient les photos chaque soir, tristement, en souhaitant ardemment rentrer au plus vite chez eux. Dans la journée, quand on est dans leur quartier, nombre de ces paysans ou ouvriers agricoles supportaient mal leur inactivité. Tout le monde attendait et l'attente était longue. C'est ainsi qu'après quelques semaines d'échanges de pagnottes, un soir, Baptiste et Maillardi se risquèrent à proposer à papa leur participation à nos travaux de terrassement, travaux qu'ils nous voyaient exécuter lors de leurs allées et venues. Joseph s'en fut à nouveau sollicité leur capitaine, qui les détacha volontiers quelques heures par jour sur notre chantier, sous la responsabilité de papa. Ils arrivaient, tombaient au sol leurs vêtements militaires, et bras nus, en maillot de corps, firent avancer à pas de géant l'arasement des roches pour entreprendre par la suite de creuser une future cave, à même le roc. Et tout à bras, hein, à la pioche, au Jean-Pierre, à la masse, cave de 40 mètres carrés et profonde de 2 mètres, un véritable travail d'Hercule. Ces gars n'étaient pas grands, mais terriblement musclés et acharnés à cogner. Ces heures de force et de sueur les libéraient des démons de l'exil. Anxieux, au départ, ils devinrent sereins, rapidement. Heureux de lavorare, comme ils disaient. Oublieux de l'armée, presque redevenus eux-mêmes. Enfin, et pour être exhaustif, après quelques mois, Joseph s'interrogea sur le vaste amoncellement de gros rouleaux de fil barbelé, rouleaux empilés et stockés non loin de là, en plein air, par les gens du génie italien. Il finit, à l'occasion d'une troisième entrevue, par obtenir du capitaine que quelques-uns de ses hommes, à titre d'entraînement, entre guillemets, réalisent un entourage complet de la garrigue, soit quelques 440 mètres de périmètre sur 5 rangs, donc 2,2 km de barbelés, gratuitement fournis et posés en 3 semaines, avec comme seule contrepartie 30 à 40 litres de vin rosé. Les piquets venaient d'un stock de larges barres en bois, en fait des traverses noires de la SNCF, stockées pour l'intendance allemande. Ils furent soustraits à leur destination par les Italiens et laborieusement mis en place par les mêmes. Tous ces travaux durèrent jusqu'au retrait précipité, mais paisible, de l'armée italienne. En une nuit, ils disparurent. Baptiste et Bayard, ils nous firent leurs adieux la veille au soir de leur départ. S'ils tremblaient de joie à l'idée de revoir prochainement leur famille, ils versèrent néanmoins des larmes sincères en nous quittant et nous embrassèrent en priant Dieu de nous bénir pour le temps passé chez Il Padrone, comme disait Giovanni avec une pointe de respect. Merci, cher Giovanni, cher Bayardi. Nous te conservons une place dans nos mémoires. Tu vois, parce que toi, tu nous avais fait une place dans ton cœur simple, spontané et sincère, tout empreint de cet humanisme millénaire qui a fait de la grande majorité de ton peuple, l'Italie, des gens doux et travailleurs remplis de gentillesse, dignes émules de la meilleure chrétienté. Quelques mois après la fin de la guerre, nous reçûmes à Brignoles une lettre à l'écriture laborieuse en italien en provenance de Padova, Padoue, ville dans laquelle Bayard nous disait avoir retrouvé sa vie à la ferme auprès de sa fidèle épouse Cestine. Il nous embrassait tous les deux, espérant que Ninette et moi, devenus grands, nous songions à leur rendre une visite. On leur répondit de même que nous espérions nous aussi qu'un jour viendrait où nous pourrions nous revoir. Les circonstances de la vie trompèrent, hélas, nos espoirs. J'en finirai avec les adrets, à regret d'ailleurs. Enfin, il faut bien, en disant qu'en 43, sur notre but, papa, ayant dégagé et remis d'équerre et recrépi un gros mur de pierre, vestige d'un ancien cabanon provençal disparu parce qu'entièrement effondré, papa avait construit en belles et bonnes planches un grand abri à toiture tôlée, bien faite, en appui solide sur le dit mur. L'abri nous servait de resserre à outils. Nous pouvions aisément y déjeuner les jours de froidure ou de pluie, ou y faire la sieste. Peu après, à l'été 44, Toussaint Roux consentit à nous louer pour quelques mois les locaux de son logement de maître dans le mas provençal qui jouxtait notre bien à quelques 70 mètres plus au bas, dans un repli de terrain. Les Reboules, famille de petits cultivateurs, en occupaient la partie attribuée aux fermiers, côté gauche vue de face. Nous habitâmes l'aile droite, plus bourgeoisement conçue, plus haute, plus vaste, plus claire et confortable. Devant le bâtiment, deux platanes et un énorme marronnier, vertigineusement haut, nous dispensait ombre et fraîcheur l'été. Les allées et venues avec des quatre boules avec leurs chiens, volailles, charrettes et chevaux, nous tenaient une agréable compagnie. L'eau était tirée au seau d'un profond puits. Elle était saine et glacée, même au plus chaud de juillet-août. On y descendait alors melons et pastèques dans le seau. Et 2 heures après, les fruits remontés semblaient sortir d'un frigo et nous rafraîchissaient. Les étés brignolés connaissaient à cette époque assez souvent de longues périodes de canicule. Comme disaient les natifs, on ne sait plus où se mettre, hein. Bien planqués sous l'ombre dense du marronnier, nous, on s'en sortait bien. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ce fut le cas ce jour-là, une belle journée de canicule. Un souvenir à mentionner pour la petite histoire aéronautique. Ce 31 juillet 1944, j'arrivais tout essoufflé de Brignoles vers midi et 5 minutes environ. Joseph et Mado m'attendaient assis à l'ombre du marronnier, s'impatientant un petit peu et m'interpellant. Alors, midi ont sonné, tu as failli nous faire attendre. La table est mise, allons déjeuner. Et ils se dirigeaient vers l'entrée qui conduisait à la cuisine. Je me justifiais. Si je suis en retard, c'est que je me suis arrêté un instant à la hauteur de l'école. « Avez-vous entendu la canonnade, là ?»« Ah oui, dit mon père, ça venait du ciel, mais sous les arbres et dans le vallon où nous sommes, nous n'avons rien vu. Et toi ?»« Moi, j'ai tout vu, oui. J'ai eu peur, même. » Je venais de voir 2 chasseurs allemands, en camouflage sombre, s'élever bruyamment dans la chaleur d'un grand ciel bleu, se placer assez rapidement derrière un avion, de type américain, bimoteur, au nez aluminisé, qui arrivait du côté de Brasse. Un avion à double fuselage. Et les 2 Allemands de le canonner à grand fracas. Fracas qui m'avait fait me réfugier contre le mur de l'école, croyant que les tirs de ces machines pouvaient m'atteindre. Canonnade à 2 reprises, le touchant à la 2e reprise. Et qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, j'ai vu 2 avions allemands là, qui ont tiré sur un avion américain et ils l'ont touché juste au-dessus de la viguière. Là. Et, comment tu le sais? Ben, j'ai vu qu'il y a eu un grand nuage qui est sorti, un nuage tout blanc, tout argenté. Et puis l'avion américain... Le pilote, il a pas sauté, il a continué, il est descendu, il a tourné au-dessus du clocher de Saint-Sauveur, là, puis il est parti vers le Luc. Et les Allemands, ils couraient derrière, mais ils l'ont pas attrapé. J'ai dû l'attendre à 1985, époque à laquelle j'appris par Ricard, la revue aéronautique, que j'avais assisté, ce 31 juillet 1944, sur le coup de midi ou un peu avant. À l'attaque d'un P-38, celui de Saint-Ex, un Lightning de reconnaissance américain. J'ignorais à l'époque que Saint-Ex venait de passer en longue finale et qu'il devait percuter la mer quelques minutes plus tard. J'en ai apporté un témoignage circonstancié à l'association des amis de Saint-Ex. J'ai publié en plus de 5000 exemplaires ce témoignage. Je l'ai même enregistré au cours d'une émission radio. J'en ai gardé une trace que je n'envoie pas faire à mes amis. Voilà, 31 juillet 44, sous le marronnier, je venais de faire mon premier compte-rendu de ce combat à mes pères et mères. Nous venions d'entendre mugir dans nos campagnes les moteurs de ces féroces soldats. L'école communale, importante, l'école communale. J'en ai obtenu un diplôme, celui des hautes études communales de Brignoles, petit H, petit E, petit C. Ces années d'école d'octobre 39 à juillet 42 s'effectuèrent dans les locaux imposants de cet ancien séminaire déjà cité, devenu école primaire et supérieure de garçons. Curieuse, cette école laïque, avec un gros clocheton en tourelle au-dessus des toits et avec en verrue une ancienne chapelle transformée en poussiéreux débarras. Les débarras de la République. En 39-40, j'entrais en huitième dans la classe de Madame Castor. Sainte femme, trop discrète et effacée pour mettre en valeur son efficacité pédagogique. Efficacité pourtant bien réelle dont j'eus grand bénéfice. En fin 40, l'année de la défaite, j'entrai en septième dans la classe de Monsieur Jean. Monsieur Jean, fière figure de ces instituteurs très anticléricaux de la Troisième République, mais passionnément imbu de l'importance de leur mission éducatrice. En plus de l'instruction ordinaire, il veillait pointilleusement à nous faire acquérir de solides rudiments d'instruction civique. Le civisme et la musique étaient ses deux dadas. Il réservait son anticléricalisme à sa vie privée. Dans la froidure exceptionnelle de cet hiver 1940, Dieu sait s'il a fait froid, il enlevait ses mitaines, dégageait précautionneusement un auguste violon vernissé de son étui après les cours. Il inclinait sa barbiche Napoléon III de vieux franc-maçon blanchi sous le harnois et tirait de l'archer pour son plaisir et pour le nôtre, petit ruraux mal abouché. Nous reprenions en chœur la truite vagabonde, la truite de Schubert, et ses yeux pétillaient tandis que son archer courait sur les cordes. Les jours où nous tombions en panne de chauffage, cela arriva quelquefois, dans ces vastes salles glaciales, en raison de la désorganisation de l'intendance scolaire juste après la défaite, ils nous priaient de rentrer chez nous, le cœur navré de ne pouvoir éveiller nos esprits autant qu'ils le souhaitaient. La raréfaction des effectifs, mobilisés dans la guerre ou retenus en captivité, avait conduit l'éducation nationale à rappeler des instituteurs âgés de 65 ans et plus. Monsieur Jean était de cela, il avait repris du service pour la nation dont il aimait les enfants profondément et simplement. Au revoir, vieille anticléricale, si sympathique. En septembre 1941, à 3 mois d'achever ma 11e année, j'entrais chez Monsieur Pélissier, où j'effectuais une première sixième. Je dis première parce qu'en septembre 42, étant encore dans ma 12e année, j'entrerai à nouveau en sixième, mais cette fois chez les Maristes, avec comme professeur le père Darne, Darne comme le fusil d'arme de Saint-Étienne. Comme interne à l'institution Sainte-Marie de la Seyne-sur-Mer, où je devais passer 7 années d'études secondaires. J'effectuais donc, courant 42, à Brignoles, ma dernière classe au sein de l'école publique d'État, sous l'éminente férule de Monsieur Pélissier. J'ai déjà parlé un petit peu avant. L'homme était un pater familias très pur, produit du terroir provençal, adepte du progrès et dans la mouvance des idées socialistes, bien que très attaché aux traditions de son métier et aux bonnes règles du savoir-vivre et de la société. Un idéaliste véritable, mais gardant les pieds sur terre, très équilibré et dans la force de l'âge, bien dans sa peau, capable de transmettre sa dynamique et sérénité aux galopins que nous étions encore. Il acheva de parfaire mes connaissances en langue française, langue que je n'ai jamais depuis lors aussi bien possédée qu'au terme de son magistère en juillet 42. Durant cette dernière année de liberté, je dis bien liberté par rapport aux 7 années d'internat qui allaient suivre chez les maristes et qui furent, hélas, en réalité 7 années d'internement et d'éradication de la douce vie familiale dont j'avais joui jusque-là. Durant donc cette 6e année brignolaise, j'ai effectué avec M. Roux, professeur d'italien, le père de Maurice Roux, mon petit camarade, j'ai effectué ma première initiation à la langue de Dante à travers Pinocchio et il m'en est resté un petit souvenir. Je m'entends encore annonner. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, c'era una volta un pezzo di legno che si è chiamato Pinocchio. E voilà. Au revoir, Geppetto. Pour mettre un point final à la relation de ces 3 années d'école communale brignolaise, il m'importe et il me plaît de faire ici l'éloge et de rendre hommage à ces maîtres d'autrefois. Ces maîtres avec un grand M majuscule. De la colline de Birmandres à l'ancien séminaire de Brignoles ou de la 10e à la 6e, j'ai nommé M. Delpuech, Mme Baldi, Mme Castor, M. Jean, M. Pellissier, M. Roux. Leur rendre hommage pour leur parfaite identification à la mission non seulement d'instruction, mais surtout mission d'éducation qu'ils apportaient à leur ministère. Hommage aux soins de tous les instants qu'ils ont consacrés à leur noble tâche dans un esprit d'apostolat. Ce n'étaient pas de bons apôtres, des apôtres à pattes nôtres, mais tellement mieux, des apôtres tout court, apôtres du travail bien fait et du gai savoir, dans l'effacement de soi et l'humble laïcité héritée de la 3e République. Moi que l'Évangile a fini par vaincre, non sans mal, c'est au nom de cet Évangile que je leur rends honneur et justice, ce qui n'est que justice, et je souhaite que vous en conveniez.
Mon cœur est un violon sur lequel ton archet joue et qui vibre tout du long, appuyé contre ta joue. Tantôt l'air est vif et gai, comme un refrain de folie. Tantôt le son fatigué traîne avec mélancolie.
Merci, chère Lucienne de Lille. Pierrot, dans ses années scolaires de 1940 à 1948, j'eus plusieurs condisciples brignolais, Coste, Finot. Finot, la barrière là-bas, à la SNCF. Tarabelli, Étienne Rapello, Prusse, le grand Prusse, Dédé Lombard, le fils du boucher, Jean-Jacques Marcel, le fils du maire et plus tard le footballeur national, mon cousin aussi, Robert Antoine, dont j'ai déjà parlé, plusieurs condisciples, mais un seul camarade. Camarade qui usa ses culottes courtes sur le même banc que moi à la communale de Brignoles, mais qui, lui, y demeura jusqu'au brevet, tandis que je divergeais chez les maristes. Ce camarade, le seul, le vrai, l'unique, c'était, et c'est encore heureusement, Pierrot Tric. Pierrot dans sa famille et dans la nôtre. Tout gosse, j'avais une sœur, il me manquait un frère. Pierrot fut ce frère-là, par voisinage, je dirais presque par captation, comme le font les rivières. Entre Pierrot et moi naquit, grossit et s'établit une amitié enfantine d'abord, adolescente ensuite, une amitié qui devait durer. Et puis la vie nous maintint humoristiquement sur des trajectoires parallèles pendant 15 ans, lui dans l'aéronaval, moi dans l'armée de l'air. Le ciel qui avait assisté à nos frasques dans notre enfance, devint pendant quelques 15 années notre terrain de jeu de 1950 à 1966, du moins en ce qui me concerne, 66. Je ne me souviens plus bien si Pierrot redevint civil peu avant ou peu après moi. Toujours est-il qu'après avoir couru les mers sous diverses latitudes, dans une flottille de la Royale et jusqu'en Indochine, il laboura longuement, lui aussi, les cieux sans fin, les cieux de la fin de l'Empire colonial français, cieux magnifiques des mers et des océans, cieux de la mystérieuse Afrique française. Il avait une prédilection pour ce qui bougeait, à tel point qu'il fut à Agadir au moment où la terre se mit à trembler. Ce qui lui permit de descendre directement de la terrasse au sous-sol, sans emprunter d'escalier, ni recourir à l'ascenseur. C'est d'ailleurs toujours un fin plaisir que de lui faire raconter cette folle nuit d'Agadir. Eh, sacré Pierrot, va, tu dois sourire en m'écoutant, hein. À Brignoles, Pierrot vivait chez sa grand-mère, Madame Longue, une bien sainte femme qui lui fut une mère de très bonne heure, car la vie lui avait très tôt retiré sa jeune maman. Nos jeux d'enfants nous conduisirent l'un chez l'autre régulièrement. Leçons et devoirs du soir, premier vélo, premier mécano, premier train électrique, première crèche provençale, ah, ces crèches sur lesquelles on travaillait des soirées durant. Rapprocher nos vies, occuper nos loisirs ou nos soirées, nous étions bien ensemble comme d'heureux camarades et tout naturellement, Pierrot trouva un accueil dans notre famille. Il en devint un membre quasi permanent, du moins très très souvent. Il lui arrivait de souper chez nous le soir, ou de passer des journées avec nous à la garrigue. Je dois dire, à cet égard, que les travaux que nous conduisions et auxquels nous collaborions avec papa à la Garrigue, j'en fis ma part pour les quelques premières années quand j'étais encore à Brignoles, mais une fois interne chez les maristes à la Seyne-sur-Mer, je ne passais guère que 2 mois et demi par an à la maison. Le reste du temps, j'étais bloqué là-bas. Ce qui fait que Pierrot se substituait à moi en ces occasions, et c'est lui qui faisait du charroi ou des gros travaux avec mon père là-haut dans cette garrigue. J'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais enfin, je lui dois cette justice, c'est que pendant longtemps, il m'a remplacé pour les corvées, quoi. Sacré Pierrot, ouais.
La période de 1940-1945, son contexte militaire, ses événements, un peu d'histoire. Si j'eus quelques scrupules à projeter mes états d'âme sur une trame historique, ils ont été vite balayés compte tenu de l'énormité de la barbarie des nazis. Vous me pardonnerez bien d'avoir gardé des ressentiments plus que vifs à l'endroit de cette Allemagne nazie, même si je pousse un petit peu au-delà des règles de la bienséance. Ce n'est encore rien à côté de ce que les Allemands ont fait ou ont dit. Le journal Sud-Ouest a publié un numéro spécial en juillet-août 91, numéro spécial très bien fait, dont le titre s'appelle Le Pain Noir, car il concerne principalement la France sous l'occupation. Je me suis un peu inspiré de ce canevas historique. J'ai emprunté aussi de larges extraits à certains articles que j'ai trouvés très significatifs, et je me suis permis d'y rajouter un peu de poivre au prorata des souvenirs personnels liés à certains événements. Dans ses premières mesures, il est facile de reconnaître la noble facture de Haydn. Ce sont aussi les premières mesures de l'hymne national allemand. Ces mesures, je vous les présente sans pouvoir réprimer le regret que cette vieille Allemagne, qui fut patrie culturelle de notre Occident, se soit à tel point dévoyé dans les absurdes excès du nazisme. Survolons rapidement les quelques extraits que j'ai empruntés au journal Sud-Ouest. Je lis Parler des Français entre 1940 et 1945, c'est évoquer 40 millions d'expériences individuelles. Oui, le Français est individualiste. Plus loin, tous sont différents, mais tous évolueront, car l'histoire de ces années 40 est essentiellement celle de l'évolution des passions. Et quelles passions ? Plus loin, la ligne de démarcation en coupant le pays en deux zones fait que le pétainisme, en zone non occupée, celle du Nord, du moins celle du Sud, est une réalité. Cependant, qu'en zone occupée, la présence quotidienne de l'Allemand, le pas lourd des patrouilles, les drapeaux à croix gammée, quelle mocheté ces drapeaux, les affiches annonçant des exécutions, oui, ça vaut pas un bon programme d'opéra, incite rapidement, sinon à la lutte, du moins au refus du principe même de la collaboration. Trop de Français ne savaient plus sur quel pied danser. Plus loin, les restrictions épargnent les uns, accablent les autres. C'était vrai, ça aussi, on l'a vu. Sont riches ceux qui ont quelque chose à vendre ou à échanger. Trop vrai. Plus loin, six grands événements s'inscrivent presque tous sur les champs de bataille, avant d'avoir une répercussion dans l'âme populaire. Survolons ces événements, en juillet-septembre 40, gain par la Royal Air Force de la bataille aérienne dite bataille d'Angleterre. Ce fut capital et déterminant, c'est vrai. Le 22 juin 41, l'Allemagne attaque la Russie. Elle commet une erreur énorme. De nombreux Français entrent en résistance. D'autres Français entrent en collaboration par anti-bolchevisme et de peur de voir l'Europe occupée par Staline. Là, j'ajouterai en aparté qu'un courant d'anglophobie a joué aussi son rôle. Il y a toujours eu de vieux anglophobes en France. De même qu'un vieux démon d'antisémitisme viscéral, ça aussi on en a eu. On en a encore. J'en apercevais les frémissements malgré mon jeune âge. Décembre 41, déclaration de guerre de l'Allemagne nazie aux États-Unis. Celle-là, c'était la meilleure. Qui mettra en branle la formidable machine industrielle américaine, qui ne tardera pas à prendre la maîtrise totale de l'air. Les persécutions antisémites de juillet 42, avec les rafles en zone occupée et celles de septembre en zone non occupée, sont trop visiblement dramatiques pour ne pas indigner une partie de l'opinion mondiale et française, mobilisée d'ailleurs par les protestations publiques de l'Église catholique. Alors là, c'est vrai, mais ouais, un peu tardive, hein. Pas presser l'Église. Le débarquement allié de novembre 42 en Afrique du Nord. Alors ça, c'est une incidence qui nous concerna à quelques semaines près, avant la victoire des armées russes à Stalingrad d'ailleurs. Débarquement qui entraîne avec l'invasion allemande de la zone inoccupée, c'est-à-dire la zone sud, la totale mise sous tutelle allemande de ce qui demeurait de Vichy. Oui, alors là, le Pétain, il fut ligoté. J'ajouterai ici invasion qui provoque le 27 novembre 1942 le sabordage, donc la destruction des unités de la flotte française dans la baie de Toulon. Oui, les Allemands voulaient faire main basse sur la flotte. On verra ça un peu plus loin. Institution en février 43 du service du travail obligatoire, ça aussi c'est une trouvaille qui eut des conséquences favorables. Et les rafles de millions d'ouvriers étrangers. Rafles auxquelles les jeunes gens seront de plus en plus nombreux à vouloir échapper vers le maquis, donc pour étoffer la résistance. Enfin, Radio Londres et les journaux résistants clandestins, appuyés par les communistes qui ont fait un bon travail, il faut pas le cacher, font évoluer les esprits, font accepter des sacrifices patriotiques. La France se range du côté des alliés à nouveau, après avoir hésité, quoi. Ce tableau un peu simpliste a néanmoins le grand mérite de clarifier un peu la mémoire confuse qu'on garde de ces six années de passion et de désordre. Le sabordage de la flotte. Pour moi, j'eus 13 ans sonné le 27 novembre 1942, je suis né à 27. Cette nuit-là fut exceptionnelle. La flotte française finissait longuement de brûler, littéralement, dans le port de Toulon. Nous étions montés sur les toits du collège à Sainte-Marie-de-la-Seine. Des feux et des flammes, des rideaux de fumée rougeoyaient dans tout le port et les bassins, perçant la nuit de leur éclat. D'énormes volutes de fumée noirâtre encombraient l'atmosphère et nous assistions, la gorge serrée, à l'agonie d'une flotte dont nous avions coutume de côtoyer tous les samedis matins les pimpantes et superbes unités, toujours repeintes à neuf, au mouillage dans la baie. La baie que nous traversions à bord d'un bateau navette qui reliait matin, midi et soir les quais de la Seine aux quais du port de Toulon. Nous réalisions amèrement le peu de gloire qu'il y avait à se saborder. Pour n'avoir pas su sortir plus tôt et briser le carcan du légalisme, pour n'avoir pas su choisir courageusement le camp de la vraie liberté, disons-le, le camp des alliés, l'état-major de la marine, cependant, dans un heureux mais tardif sursaut de l'amiral Laborde, décida un pis-aller de sabordage. Je cite l'article d'Ouest France. Il est 4h30, ce 27 novembre, deux divisions de Panzer SS, Das Reich et les 7e et 10e divisions foncent sur les arsenaux. À 5h20, cinq sous-marins parviennent à fuir. Soudain, au vergue du magnifique Strasbourg, clignote en permanence l'ordre de sabordage, tandis que les Allemands s'égarent dans les arsenaux. C'est vrai, c'est un vrai labyrinthe. La flotte commence à brûler. Le Strasbourg coule tout droit. L'amiral Laborde refuse de quitter son bord, bien que Pétain lui ait intimé l'ordre de débarquer. Tous sabordés, le Dunkerque, le Colbert, le Condorcet, le Provence, le commandant Test, le Foch, le la Galissonnière, tous, sous-marins, avisos, patrouillards, navires de servitude, contre-torpilleurs, 80 navires. Sur les quais, les marins français pleuraient. Une des plus belles flottes du monde venait de se suicider, et j'ajoute malheureusement sans combattre. La France libre et la résistance. Le 17 juin à 13h, le maréchal Pétain annonce au pays que le moment est venu de, entre guillemets, cesser le combat. Formule malheureuse s'il en fut. Le lendemain, 18 juin 1940, en fin d'après-midi, devant le micro de la BBC, le général de Gaulle va lire son appel aux Français, le fameux appel du 18 juin, et prononcer les mots qui fixent le destin de la France. Il s'élève contre le défaitisme et désavoue l'attitude de Pétain. Je cite, « Les chefs qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. La défaite est-elle définitive? Non. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Et c'est l'appel. J'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ces quelques phrases rappellent l'importance de l'événement. Il faut savoir que le 14 juillet 1940, c'est-à-dire peu de temps après cet appel, les Français libres n'étaient que 700. Et le général pouvait dire que les marins de l'île de Sein venus le rejoindre étaient à eux seuls le quart de la France libre. Bien sûr, l'effectif grossira. Un embryon d'État est reconstitué avec le Comité national de la France libre. Ça sera de Brazzaville que le général promulguera en octobre 40 les premiers textes qui organisent la France libre. Des unités de Français libres combattent d'ailleurs en Éthiopie et en Cyrénaïque. Notons au passage que la citation « La France a perdu la bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre » n'est apparue que plus tard dans l'affiche apposée en juillet sur les murs de Londres. Affiche que papy et mamie ont eu le temps de contempler à cette époque. Le ton s'y est fait plus dur et l'appel plus pressant. Des gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Notre pays est en péril de mort, luttons pour le sauver. L'appel fut entendu. La résistance. La résistance, bien que porteur de culottes courtes à cette époque-là, je me dois néanmoins d'en brosser les grandes lignes. La flamme de la résistance française ne s'éteindra pas. Après des débuts modestes, le mouvement s'organisa. À son apogée, la résistance intérieure comptait de 300 à 400 000 volontaires.